Alphonse Daudet, Froment jeune et Liseré René, deuxième partie, le jour de ma femme. Midi, le marais des jeunes. Aux lourdes vibrations des Angélus de Saint-Paul, de Saint-Gervais, de Saint-Denis, du Saint-Sacrement, se mêle, montant des cours, le tintement grêle des cloches de fabrique. Chacun de ces carillots a sa physionomie bien distincte. Il en est de triste et de gai, d'alerte et d'endormi. Il y a des cloches riches, heureuses, tintant pour des centaines d'ouvriers, et des cloches pauvres, timides, qui semblent se cacher derrière les autres et se faire toutes petites, comme si elles avaient peur que la faillite les entende. Et puis les menteuses et les effrontées, celles qui sonnent pour le dehors, pour la rue, pour faire croire qu'on est une maison considérable et qu'on occupe beaucoup de monde. Dieu merci, la cloche de l'usine Froment n'est pas une de celles-là. C'est une bonne vieille cloche, un peu fêlée, connue dans le marais depuis 40 ans et qui n'a jamais chômé que les dimanches et les jours d'émeute. À sa voix, tout un peuple d'ouvriers défile sous le portail de l'ancien hôtel et s'écoule dans les cabinets environnants. Les apprentis s'asseyent au bord des trottoirs avec des ouvriers maçons. Pour se réserver une demi-heure de jeu, ils déjeunent en 5 minutes de tout ce qui traîne à Paris pour les ambulants et les pauvres des marrons, des noix, des pommes. Et à côté d'eux, les maçons cassent de grandes niches d'un pain tout blanc de farine et de plâtre. Les femmes sont pressées et s'en vont en courant. Elles ont toutes, à la maison ou à l'asile, un enfant à surveiller, un vieux parent, le ménage à faire. Étouffées par l'air des ateliers, les paupières gonflées, les cheveux ternis de la poussière des papiers velours, une poudre fine qui fait tousser, elles se hâtent, un panier au bras, par la rue encombrée où les omnibus circulent avec peine, dans ce débordement de peuple. Près de la porte, assis sur une borne qui servait autrefois de montoir aux cavaliers, Risler regarde en souriant la sortie de la fabrique. C'est toujours un bonheur pour lui que l'estime communicative de tous ces braves gens qu'il a connus là quand il était petit et humble comme eux. Ce bonjour, monsieur Risler, dit par tant de voix différentes et toutes affectueuses, lui fait chaud au cœur. Les enfants l'accostent sans peur, les dessinateurs à grande barbe, demi-ouvriers, demi-artistes, lui donnent en passant la poignée de main et le tutoiement. Peut-être y a-t-il dans tout cela un peu trop de familiarité, car le brave homme n'a pas encore compris le prestige et l'autorité de sa nouvelle position. Je connais quelqu'un qui trouve se laisser aller bien humiliant. Mais ce quelqu'un ne peut pas le voir en ce moment, et le patron en profite pour donner une vigoureuse accolade au vieux teneur de livre Sigismond, qui sort le dernier de tous, roi de rouge, encaissé dans un grand col et tête nue, quelque temps qu'il fasse, de peur des coups de ses sangs. Risler et lui sont compatriotes. Ils ont l'un pour l'autre une estime profonde qui date de leur début à la fabrique, de l'époque lointaine où ils déjeunaient ensemble à la petite crèmerie du coin, dans laquelle Sigismond Planus entre tout seul maintenant et se choisit un plat du jour sur l'ardoise pendue au mur. « Mais gars, oh, voici la voiture de Froment jeune qui arrive sous le portail. » Depuis le matin, il est en course, et les deux associés, en s'avançant vers la maison coquette qu'ils habitent tout au fond du jardin, causent amicalement de leurs affaires. « Je suis allé chez les Prochassons, » dit Froment jeune. « Ils m'ont montré de nouveaux modèles, très jolis, ma foi. Oh, il faut faire attention, nous avons là des concurrents sérieux. » Risler n'est pas inquiet, lui. Il se sent fort de son talent, de son expérience. Et puis, mais ceci est très confidentiel, il est sur la piste d'une invention merveilleuse, une imprimeuse perfectionnée, quelque chose, enfin, on verra. Tout en causant, ils entrent dans le jardin, soyeux comme un soir, avec des acacias en boule presque aussi vieux que l'autel et des lierres magnifiques qui cachent les hautes murailles noires. À côté de Fromont jeune, Rissler est né et a l'air d'un commis qui rend ses comptes au patron. À chaque pas, il s'arrête pour parler, car son geste est lourd, ses idées lentes, et les mots ont bien du mal à lui arriver. Oh, s'il pouvait voir là-haut, derrière la vitre du second étage, le petit visage rose qui observe tout cela attentivement. Madame Rissler attend son mari pour déjeuner et s'impatiente de ses lenteurs de bonhomme. De la main, elle lui fait signe. Allons donc, mais Rissler ne s'en aperçoit pas. Il est tout occupé de la petite Fromont, la fille de Georges et de Claire, qui prend le soleil épanoui dans ses dentelles sur les bras de sa nourrice. Comme elle est jolie!
C'est tout votre portrait, Madame Georges. Vous trouvez, mon bon Rissler? Tout le monde dit pourtant qu'elle ressemble à son père.
Oui, un peu, mais cependant.
Et ils sont là tous, le père, la mère, Rissler, la nourrice, à chercher gravement une ressemblance dans cette petite esquisse d'être qui les regarde de ses yeux vagues, tout éblouis de la vie et du jour. À sa fenêtre entr'ouverte, Sidonie se penche pour voir ce qu'ils font et pourquoi son mari ne monte pas. À ce moment, Rissler a pris le poupon dans ses bras, tout ce joli fardeau d'étoffe blanche et de ruban clair, et cherche à le faire rire et gazouiller avec des gentillesses des mines de grand-père. Comme il a l'air vieux, le pauvre homme. Son grand corps qu'il rapetisse devant l'enfant, sa grosse voix qui se fait sourde pour s'adoucir, sont autant de disgrâces et de ridicules. Là-haut, sa femme tape du pied et murmure entre ses dents « Oh, l'imbécile !» Enfin, lasse d'attendre, elle envoie prévenir monsieur que le déjeuner est servi. Mais la partie est si bien en train, que monsieur ne sait plus comment s'en aller, comment interrompre cette explosion de joie et de petits cris d'oiseaux. Il parvient pourtant à rendre l'enfant à sa nourrice, et se sauve dans l'escalier en riant de tout son cœur. Il rit encore en entrant dans la salle à manger, mais un regard de sa femme l'arrête net. Sidonie est assise à table devant le réchaud chargé. On sent un parti pris de mauvaise humeur dans sa pose de victime. «
Ah, voilà, c'est bien heureux !»
Rissler s'assied un peu honteux.
« Ah, que veux-tu, petite, cet enfant est si...
Oh, je vous ai déjà prié de ne pas me tutoyer. Cela n'est pas de mise entre nous.
Mais quand nous sommes seuls, tenez, vous ne saurez jamais vous faire votre nouvelle fortune.
Aussi qu'arrive-t-il, personne ne me respecte ici. Le père Achille me salue à peine quand je passe devant sa loge. Il est vrai que je ne suis pas une Fromont, moi, et que je n'ai pas de voiture. »
« Voyons, petite, tu... Enfin, c'est-à-dire, vous savez bien que, tu, que vous pouvez vous servir du coupé de Madame Georges. Elle le met toujours à votre disposition. »
« Mais combien de fois faut-il vous dire que je ne veux avoir aucune obligation à cette femme-là ?
Oh, Sidonie ! Oui, nous savons, c'est convenu. Madame Fromont, c'est le bon Dieu. Oh, il est défendu d'y toucher. » Et moi, alors, je dois me résigner à n'être rien dans la maison et à me laisser humilier, fouler aux pieds.
Voyons, voyons, petite. Le pauvre Rissler essaye de s'interposer et de dire un mot en faveur de sa chère maman Georges. Mais il est maladroit. C'est la pire des conciliations. Et pour le coup, Sidonie éclate.
« Mais je vous dis, moi, qu'avec son air tranquille, cette femme est orgueilleuse et méchante. D'abord, elle me déteste, je le sais. Tant que j'ai été la pauvre petite Sidonie à qui l'on jetait les joujoux cassés, les vieilles robes, c'était bien. Mais maintenant que je suis maîtresse, moi aussi, cela la vexe et l'humilie. Madame me donne des conseils de haut, critique mes façons de faire. J'ai eu tort d'avoir une femme de chambre.
Naturellement, n'ai-je pas été habitué à me servir moi-même? Elle cherche toutes les occasions de me blesser. Quand je vais chez elle le mercredi, il faut entendre de quel ton devant le monde elle me demande des nouvelles de cette bonne madame Cheb. Eh bien oui, je suis une Cheb et non une Froment, et elle une Froment. Cela se vaut, je pense. Mon grand-père était pharmacien, et le sien, qu'est-ce que c'est? Un paysan enrichi par l'usure. Oh, je le lui dirai un de ces jours, si elle fait trop la fière, et aussi que leur fillette, sans qu'il s'en doute, lui ressemble à ce vieux père gardinois, et Dieu sait qu'il n'est pas beau. Oh, dit Risler, qui ne trouve pas un mot à répondre. Pardi, oui, je vous conseille de l'admirer, leur enfant. Elle est toujours malade, elle pleure toute la nuit comme un petit chat. Cela m'empêche de dormir. Et après, dans la journée, j'ai le piano de la maman et ses roulades. Ta la 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 la. Encore si c'était de la musique amusante. Risler a pris le bon parti. Il ne dit plus un mot. Puis, au bout d'un moment, quand il voit qu'elle commence à être plus calme, il achève de l'apaiser avec des compliments. Ah, est-elle gentille aujourd'hui? On fait donc des visites tantôt? Pour éviter la difficulté du tutoiement, il se sert d'un mode vague et impersonnel. Non, je ne fais pas de visite, répond Sidonie avec une certaine fierté. J'en reçois, au contraire, c'est mon jour. Et en face de l'air étonné, confondu de son mari, elle reprend. Eh bien oui, c'est mon jour. Madame Froment en a un, je peux bien en avoir un aussi, je pense. Sans doute, dit le bon Risler, qui regarde autour de lui avec un peu d'inquiétude. Ah, oh, c'est donc cela que j'ai vu tant de fleurs partout, sur le palier, dans le salon. Oui, ce matin la bonne est descendue au jardin. Est-ce que j'ai eu tort? Oh, vous ne le dites pas, mais je suis sûr que vous pensez que j'ai eu tort. Dame, je croyais que les fleurs du jardin étaient à nous comme à eux. Oh, certainement, pourtant, tu, enfin, vous, il aurait peut-être mieux valu à le demander, oui, c'est cela, m'humilier encore à propos de quelques méchants chrysanthèmes et de deux ou trois sous de verdure. Oh, d'ailleurs, je ne suis pas caché pour les prendre, ces fleurs. Et quand elle montera tout à l'heure. Ah, est-ce qu'elle doit venir? Ah, ça, c'est gentil, Sidonie répondit indigné. Comment c'est gentil? Ah, il ne manquerait plus que cela, par exemple, qu'elle ne vint pas. Moi qui vais tous les mercredis m'ennuyer chez elle avec un tas de poseuses de grimacières. Elle ne dit pas que ces mercredis de Madame Froment lui ont beaucoup servi, qu'ils sont pour elle comme un journal de mode hebdomadaire, une de ces petites compositions composites, où il y a la façon d'entrer, de sortir, de saluer, de placer des fleurs sur une jardinière et des cigares dans un fumoir, sans compter les gravures, le défilé de tout ce qui se porte avec l'adresse et le nom de bonne faiseuse. Sidonie ne dit pas non plus que ses amies de Claire, dont elle parle si dédaigneusement, elle les a toutes suppliées de venir la voir, son jour, et que ce jour a été choisi par elle-même. Viendront-elles? Madame Froment jeune fera-t-elle à Madame Risler aînée l'affront de manquer son premier vendredi? Cela l'inquiète jusqu'à la fièvre. Mais dépêchez-vous donc, dit Sidonie à chaque instant. Oh, comme vous êtes long à déjeuner, bon Dieu! Le fait est qu'une des manies du brave Risler est de manger lentement, d'allumer sa pipe à table en savourant son café à petite dose. Aujourd'hui, il lui faut renoncer à ses chères habitudes, laisser la pipe dans son étui à cause de la fumée, et sitôt la dernière bouchée, aller s'habiller bien vite, car sa femme tient à ce qu'il monte cet après-midi saluer ses dames. Quel événement dans la fabrique quand on voit Risler aîné descendre un jour de semaine en redingote noire et cravate de cérémonie. « Tu vas donc à la noce ?» lui crie le guessier, Sigismond derrière son grillage. Et Risler répond, non sans quelque fierté, « Oh, c'est le jour de ma femme !» Bientôt, tout le monde sait dans la maison que c'est le jour de Sidonie. Et même le père Achille, qui fait le jardin, n'est pas très content parce qu'on a cassé les branches au laurier d'hiver de l'entrée. Assis devant la planche où il dessine, sous le jour blanc des hautes fenêtres, Rissler a quitté sa belle redingote qui le gêne, retroussé ses manchettes toutes fraîches. Mais l'idée que sa femme attend du monde le préoccupe, l'inquiète, et de temps en temps il se remet en tenue pour monter chez lui. « Personne n'est venu ?» demande-t-il timidement. « Non, monsieur, personne. » Dans le beau salon rouge, car ils ont un salon en derma rouge avec une console entre les fenêtres et une jolie table au milieu du tapis à fleurs claires, Sidonie s'est installée en femme qui reçoit, un cercle de fauteuils et de chaises autour d'elle. Ça et là, des livres, des revues, une petite corbeille à ouvrage en forme de bourriche, tressée avec des glands de soie, un bouquet de violettes dans un verre de cristal et des plantes vertes dans les jardinières. Tout cela est disposé exactement comme chez les Fromont, à l'étage au-dessous. Seulement le goût, cette ligne invisible qui sépare le distingué du vulgaire, n'est pas encore affiné. On dirait la copie médiocre d'un joli tableau de genre. La maîtresse de maison elle-même a une robe trop neuve, elle a plutôt l'air d'être en visite que chez elle. Aux yeux de Rissler, tout est superbe, sans reproche. Il s'apprête à le dire en entrant dans le salon, mais devant le regard courroucé de sa femme, le pauvre mari s'arrête, intimidé. « Vous voyez, il est 4 heures, lui dit-elle en montrant la pendule d'un geste de colère. « Mais personne ne viendra. Mais c'est à Claire, surtout, que j'en veux de n'être pas montée. Elle est chez elle, j'en suis sûr, je l'entends. » En effet, depuis midi, Sidonie guette les moindres bruits de l'étage au-dessous, les cris de l'enfant, une porte qu'on ferme. Rissler voudrait redescendre, fuir la conversation du déjeuner qui recommence. Mais sa femme ne l'entend pas ainsi. C'est bien le moins qu'il lui tienne compagnie, lui, puisque tout le monde l'abandonne. Il reste là, inepte, cloué sur place, comme ces gens qui n'osent pas bouger pendant l'orage de peur d'attirer la foudre. Sidonie s'agite, va, vient dans le salon, change une chaise, la remet, se regarde en passant dans la glace, sonne sa bonne pour lui dire d'aller demander au père Achille si personne n'est venu pour elle. Il est si méchant, ce père Achille. Peut-être quand on vient, répond-il qu'elle est sortie. Mais non, le concierge n'a encore vu personne. Silence et consternation. Sidonie est debout à la fenêtre de gauche, Rissler à celle de droite. De là, il voit le petit jardin où la nuit commence à descendre et la fumée noire que la haute cheminée dégage sous un ciel bas. La vitre de Sigismond s'allume la première au rez-de-chaussée. Le caissier prépare sa lampe lui-même avec un soin méticuleux et sa grande ombre se promène devant la flamme, se courbe en deux près du grillage. La colère de Sidonie se distrait un moment à ces détails connus. Tout à coup, un petit coupé entre dans le jardin et vient s'arrêter devant la porte. Enfin, voilà quelqu'un. Dans ce joli tourbillon de soie, de fleurs, de jais, de brandebourgs, de fourrures qui franchit le perron vivement, Sidonie a reconnu une des plus élégantes habituées du salon Fromont, la femme d'un riche marchand de bronze. Quelle gloire de recevoir une visite pareille! Vite, vite, le ménage prend position, monsieur à la cheminée, madame dans un fauteuil, feuilletant négligemment un magazine. Pause perdue, la belle visiteuse ne venait pas pour Sidonie, elle s'est arrêtée à l'étage au-dessous. Ah, si madame Georges pouvait entendre ce que sa voisine dit d'elle et de ses amis. À ce moment, la porte s'ouvre, on annonce « Mademoiselle Planus !» C'est la sœur du caissier, une pauvre vieille fille, humble et douce, qui s'est fait un devoir de cette visite à la femme du patron de son frère, et semble stupéfaite de l'accueil empressé qu'elle reçoit. On l'entoure, on la choie. Oh, que c'est aimable à vous, approchez-vous donc du feu. Ce sont des attentions, un intérêt à ses moindres paroles. Le bon Whistler a des sourires chaleureux comme des remerciements. Sidonie elle-même déploie toutes ses grâces, heureuse de se montrer dans sa gloire à une égale de l'ancien temps, et de songer que l'autre au-dessous doit entendre qu'il lui est venu du monde. Aussi fait-on le plus de train qu'on peut en roulant les fauteuils, en repoussant la table. Et lorsque la vieille demoiselle s'en va, éblouie, enchantée, confondue, on l'accompagne jusque dans l'escalier avec un grand froufrou de volant, et on lui crie bien fort, en se penchant sur la rampe, qu'on reste chez soi tous les vendredis. Vous entendez, tous les vendredis. Maintenant, il fait nuit. Les deux grosses lampes du salon sont allumées. Dans la pièce à côté, on entend la bonne qui met le couvert. C'est fini, Madame Fromont jeune ne viendra pas. Sidonie est blême de rage. Voyez-vous cette pimbèche qui ne veut pas seulement monter 18 marches. Madame trouve sans doute que nous sommes trop petites gens pour elle. Oh, mais je me vengerai. Et à mesure qu'elle exhale sa colère en paroles injustes, sa voix devient vulgaire, prend des intonations de faubourg, un accent peuple qui trahit l'ancien apprenti du magasin Le Mire. Et Rissler a le malheur de dire un mot. Qui sait, l'enfant était peut-être malade. Furieuse, elle se retourne sur lui, comme si elle voulait le mordre. Allez-vous me laisser tranquille avec cet enfant? D'abord, c'est votre faute ce qui m'arrive. Vous ne savez pas me faire respecter. Et pendant que la porte de sa chambre, violemment refermée, fait trembler les globes de lampe et tous les bibelots des étrangères, Rissler, resté seul, immobile au milieu du salon, regarde d'un air consterné ses manchettes toutes blanches, ses larges pieds vernis, et murmure machinalement « Le jour de ma femme !»
Perles vraies et perles fausses. Mais qu'est-ce qu'elle a? Que lui ai-je fait? Se demandait souvent Claire Fromont en pensant à Sidonie. Elle ignorait absolument ce qui s'était passé autrefois entre son ami et Georges à Savigny. Avec sa vie si droite, son âme si tranquille, il était impossible de deviner que l'ambition jalouse et basse avait grandi à ses côtés depuis 15 ans. Pourtant, le regard énigmatique qui lui souriait froidement dans ce joli visage la troublait sans qu'elle s'en rendît compte. À une politesse affectée, singulière chez des amis d'enfance, succédait tout à coup une colère mal dissimulée, une intonation sèche et cinglante, devant laquelle Claire restait interdite, comme devant un problème. Parfois aussi un pressentiment singulier, l'intuition vague d'un grand malheur, se joignait à cette inquiétude. Car les femmes sont tout un peu des voyantes, et même chez les plus candides, l'ignorance profonde du mal s'éclaire de vision subite d'une étonnante lucidité. De temps en temps, à la suite d'une causerie un peu longue, d'une de ces rencontres imprévues où les visages pris au dépourvu laissent bien voir leurs pensées vraies, Madame Fromont réfléchissait sérieusement à cette singulière petite Sidonie. Mais la vie était là, active, pressante, avec son enveloppement d'affection, de préoccupation, et ne lui donnait pas le temps de s'arrêter à ses minuties. Il arrive en effet un âge pour les femmes où l'existence a des détournants de route si subits que tous les horizons changent, tous les points de vue se transforment. Jeune fille, cette amitié qui s'en allait d'elle pièce à pièce, comme déchirée par une main mauvaise, l'eût beaucoup attristée. Mais elle avait perdu son père, la plus grande, l'unique affection de sa jeunesse. Puis elle s'était mariée. L'enfant était venu avec ses adorables exigences de toutes les minutes. En outre, elle gardait près d'elle sa mère, presque en enfance,
abêtie encore par la mort tragique de son mari, et dans une vie si occupée, les caprices de Sidonie tenaient peu de place. C'est à peine si Claire Fromont avait songé à s'étonner de son mariage avec Risler. Évidemment, il était trop âgé pour elle, mais, après tout, puisqu'il s'aimait. Quant à se vexer que la petite Cheb fût arrivée à cette haute position, devenue presque son égale, sa nature très supérieure était incapable de pareille petitesse. Elle eût désiré de tout cœur, au contraire, voir heureuse et considérée cette jeune femme qui habitait près d'elle, vivait pour ainsi dire de sa vie, et avait été sa compagne d'enfance. Très affectueusement, elle essaya de l'instruire, de l'initier au monde, comme on fait d'une provinciale bien douée, à qui il manque peu de choses pour devenir charmante. Entre deux femmes jolies et jeunes, les conseils ne s'acceptent pas facilement. Quand Madame Fromont, un jour de grand dîner, prenait Madame Risler dans sa chambre et lui souriait bien en face, pour lui dire sans la fâcher, « Trop de bijoux, mignonne, et puis vois-tu, avec les robes montantes, on ne met pas de fleurs dans les cheveux. » Sidonie rougissait, remerciait son amie, mais au fond de son cœur inscrivait un grief de plus contre elle. Dans le monde de Claire, on l'avait assez froidement accueillie. Le faubourg Saint-Germain a ses prétentions, mais si vous croyez que le marais n'a pas les siennes. Ces femmes et ces filles d'industriels, de riches fabricants, savaient l'histoire de la petite Cheb, l'auraient deviné rien qu'à sa façon de se présenter, d'être parmi elles. Sidonie avait beau s'appliquer, il restait en elle de la demoiselle de magasin. Ses amabilités un peu forcées, trop humbles quelquefois, choquaient comme le font tôt des boutiques, et ses habitudes dédaigneuses rappelaient les mines superbes de ses premières, qui dans les magasins de nouveautés, parées de robes de soie noire qu'elles remettent au vestiaire le soir en partant, regardent d'un air imposant, du haut de leur coiffure à grandes boucles, les petites gens qui se permettent de marchander. Elle se sentait examinée et critiquée, et sa timidité était obligée de s'armer en guerre. Les noms prononcés devant elle, les plaisirs, les fêtes, les livres dont on parlait, lui étaient inconnus. Claire la mettait de son mieux au courant, la maintenait au niveau, d'une main amie, toujours tendue. Mais parmi ces dames, beaucoup trouvaient Sidonie jolie. C'était assez pour lui en vouloir d'être entrée dans leur monde. D'autres, fiers de la position de leur mari, de leur richesse, n'avaient pas assez de mutismes insolents, de politesse condescendante, pour humilier la petite parvenue. Sidonie les confondait toutes dans un seul mot, les amis de Claire, c'est-à-dire mes ennemis à moi. Mais elle n'en voulait sérieusement qu'à une seule. Les deux associés ne se doutaient guère de ce qui se passait entre leurs femmes. Risler aîné, toujours absorbé dans son invention d'imprimeuse, restait quelquefois jusqu'au milieu de la nuit à sa table de dessin. Fromont jeune passait ses journées dehors, déjeunait à son cercle, n'était presque jamais à la fabrique. Il avait ses raisons pour cela. Le voisinage de Sidonie le troublait. Ce caprice passionné qu'il avait eu pour elle, cet amour sacrifié aux dernières volontés de son oncle, lui traversait trop souvent la mémoire avec tout le regret de l'irréparable, et, se sentant faible, il fuyait. C'était une nature molle, sans ressort, assez intelligente pour se connaître, mais trop faible pour se diriger. Le soir du mariage de Risler, marié lui-même depuis quelques mois à peine, il avait retrouvé auprès de cette femme toute l'émotion des soirs orageux de Savigny. Dès lors, sans s'en rendre bien compte, il évita de la revoir, de parler d'elle. Malheureusement, comme ils habitaient la même maison,
que les femmes se visitaient 10 fois par jour, le hasard des rencontres les mettait en présence. Et il se passa cette chose singulière que ce mari, voulant rester honnête, désertait tout à fait son ménage et cherchait des distractions dehors. Claire voyait cela sans étonnement. Elle avait été habituée par son père à ce perpétuel enlaire de la vie de commerce, et pendant ses absences, toute zélée dans ses devoirs de femme et de mère, elle s'inventait de longues tâches, des travaux de toutes sortes, des promenades pour l'enfant, des stations de soleil prolongées et calmes, dont elle revenait, ravie des progrès de la fillette, pénétrée des joies et des rires des tout-petits en plein air, avec un peu de leur rayonnement au fond de ses yeux sérieux. Sidonie sortait aussi beaucoup. Souvent, vers la nuit, la voiture de Georges, qui passait le portail, faisait se ranger vivement Madame Whistler en superbe toilette, rentrant après de grandes courses dans Paris. Le boulevard, les étalages, les emplettes longuement choisies comme pour savourer le plaisir nouveau d'acheter, la tenait très tard hors de chez elle. On échangeait un salut, un froid regard au détour de l'escalier, et Georges entrait vite chez lui comme dans un refuge, sachant, sous un flot de caresses à l'enfant qu'on lui tendait, et le trouble tout à coup ressenti. Sidonie, elle, semblait le plus se souvenir de rien, et n'avoir gardé que du mépris pour cette nature lâche et douce. D'ailleurs, elle avait bien d'autres préoccupations. Dans leur salon rouge, entre les deux fenêtres, son mari venait de faire installer un piano. Après bien des hésitations, elle s'était décidée à apprendre le chant, pensant qu'il était un peu tard pour commencer le piano. Et 2 fois par semaine, Madame Dobson, une jolie blonde sentimentale, venait lui donner des leçons de 12h à 1h. Dans le silence des cours environnantes, ces « ah, ces « oh, oh » prolongés avec insistance, recommencés 10 fois, les fenêtres ouvertes, donnaient à la fabrique l'aspect d'un pensionnat. C'était bien en effet une écolière qui s'exerçait là, une petite âme inexpérimentée, flottante, pleine de désirs inavoués, ayant tout à apprendre et à connaître pour devenir une vraie femme. Seulement, son ambition s'en tenait à la superficie des choses. Claire Fromont joue du piano, bien moi je chanterai. Elle passe pour une femme élégante et distinguée. Je veux qu'on en dise autant de moi. Sans songer une minute à s'instruire, elle passait sa vie à courir les boutiques, les fournisseurs. Que portera-t-on cet hiver ? Alors elle allait aux somptuosités d'étalage, à tout ce qui saute aux yeux des passants. De ces perles fausses qu'elle avait si longtemps maniées, il lui était resté quelque chose au bout des doigts, un peu de leur nacre factice, de leur fragilité creuse, de leur éclat sans profondeur. Elle était bien elle-même une perle fausse, ronde, brillante, bien sertie, où le vulgaire pouvait se prendre. Mais Claire Fromont était une perle véritable, d'un feu riche et discret à la fois, et quand on les voyait ensemble, la différence se sentait. On devinait que l'une avait été perle toujours, une toute petite perle dès l'enfance, accrue des éléments d'élégance, de distinction, qui en avaient fait une nature rare et précieuse. L'autre, au contraire, était bien l'œuvre de Paris, ce bijoutier en faux, qui dispose de 1000 futilités charmantes, brillantes, mais peu solides, mal assorties, mal rattachées, un vrai produit du petit commerce dont elle avait fait partie. Ce que Sidonie enviait par-dessus tout à Claire, c'était l'enfant, le poupon luxueux, enrubanné depuis les rideaux de son berceau jusqu'au bonnet de sa nourrice. Elle ne songeait pas au devoir doux, plein de patience et d'abnégation, au long bercement des sommeils difficiles, au réveil rieur, étincelant d'eau fraîche. Non,
Dans l'enfant, elle ne voyait que la promenade. C'est si joli, cet attifement de ceinture flottante et de longues plumes qui suit les jeunes mères dans le tourbillon des rues. Elle, pour se faire accompagner, n'avait que ses parents ou son mari. Elle aimait mieux sortir seule. Il avait une façon si drôle d'être amoureux, ce brave Rissler, jouant avec sa femme comme avec une poupée, lui pinçant le menton et les joues, rôdant autour d'elle avec des cris « ouh » ou bien la regardant de ses gros yeux attendris, comme un chien affectueux et reconnaissant. Cet amour bêta, qui faisait d'elle un joujou, une porcelaine d'étagère, la rendait honteuse. Quant à ses parents, ils la gênaient pour le monde qu'elle voulait voir, et sitôt après son mariage, elle s'en était à peu près débarrassée en leur louant une maisonnette à Montrouge. Cela avait coupé court aux invasions fréquentes de M. Cheb en longue redingote et aux visites interminables de la bonne Mme Cheb, chez qui le bien-être revenu ranimait d'anciennes habitudes de commérage et de vie oisive. Du même coup, Sidonie aurait bien voulu éloigner aussi les deux Lobel, dont le voisinage lui pesait. Mais le Marais était un centre pour le vieux comédien, à cause de la proximité des théâtres du boulevard. Puis Désiré tenait, comme toutes les sédentaires, à l'horizon connu, et sa cour triste, assombrie l'hiver des 4 heures, lui semblait une amie, un visage de connaissance, que le soleil éclairait quelquefois comme un sourire à son adresse. Sidonie, ne pouvant pas se débarrasser d'eux, avait pris le parti de ne plus les voir. En somme, sa vie eût été solitaire et assez triste, sans quelques distractions que Claire Fromont lui procurait. Chaque fois, c'était une colère, elle pensait. « Mais tout me viendra donc par elle !» Et lorsque, au moment de dîner, on lui envoyait de l'étage au-dessous un numéro de loge ou une invitation pour le soir, tout en s'habillant, ravie de se montrer, elle ne songeait qu'à écraser sa rivale. Ces occasions, d'ailleurs, devenaient rares. Claire étant de plus en plus occupée de son enfant, et pourtant, lorsque le grand-père gardinois en faisait un voyage à Paris, il ne manquait jamais de réunir les deux ménages. La gaieté du vieux paysan avait besoin pour s'épanouir de cette petite Sidonie que ses plaisanteries n'effarouchaient pas. Il les faisait dîner tous quatre chez Philippe, son restaurant de choix, dont il connaissait les patrons, les garçons, le sommelier, dépensait beaucoup d'argent et de là les conduisait dans une loge louée d'avance à l'Opéra Comique ou au Palais Royal. Au théâtre, il riait fort, parlait familièrement aux joueuses, comme aux garçons de chez Philippe, réclamait tout haut des tabourets pour les dames, et à la sortie, il voulait avoir les paletots, les fourrures, avant tout le monde, comme s'il eût été le seul parvenu 3 fois millionnaire dans la salle. Pour ses parties un peu vulgaires, où son mari le plus souvent évitait de se trouver, Claire, avec son tact habituel, s'habillait sobrement, passait inaperçue. Sidonie, au contraire, toute voile dehors, étalée au devant des loges, riait de tout son cœur aux histoires du grand-père, heureuse d'être descendue des troisièmes ou des secondes, ses places d'autrefois, à ses belles avant-scènes ornées de glace, dont le bord de velours lui semblait fait exprès pour ses gants clairs, sa lorgnette d'ivoire et son éventail à paillettes. La banalité des endroits publics, le rouge et l'or des tentures, c'était du vrai luxe pour elle. Elle s'y épanouissait comme une jolie fleur en papier dans une jardinière en filigrane. Un soir, à une pièce en vogue du Palais Royal, parmi les femmes présentes, des célébrités peintes, coiffées de chapeaux microscopiques, armées d'immenses éventails et dont les têtes fardées sortaient de l'ombre des baignoires dans l'échancrure des corsages
comme des portraits vaguement animés, l'allure de Sidonie, sa toilette, sa façon de rire et de regarder furent très remarquées. Toutes les lorgnettes de la salle, guidées par ce courant magnétique si puissant sous le lustre, se dirigeaient peu à peu vers la loge qu'elle occupait. Claire finit par en être gênée, et discrètement, elle fit passer à sa place son mari, qui par malheur les avait accompagnés ce soir-là. Georges, jeune, élégant, à côté de Sidonie, avait l'air de son compagnon naturel, tandis que derrière eux, Rissler aîné, toujours si calme, si éteint, semblait bien à sa place près de Claire Fromont, qui gardait dans ses vêtements un peu sombre comme un incognito d'honnête femme au bal de l'opéra. En sortant, chacun des deux associés prit le bras de sa voisine. Une ouvreuse dit à Sidonie en parlant de Georges, « Votre mari !» Et la petite femme en eut un rayonnement de plaisir. « Votre mari !» Oh, ce mot si simple avait suffi pour la bouleverser et remuer au fond de son cœur un tas de choses mauvaises. Pendant qu'ils traversaient les couloirs, le foyer, elle regardait Rissler et Madame Schorsch marcher devant eux, et l'élégance de Claire lui semblait écrasée, vulgarisée par la démarche lourde de Rissler. Elle se disait, comme il doit m'en les dire quand nous marchons ensemble. Et le cœur lui battait à l'idée du couple charmant, heureux, admiré, qu'ils auraient fait, elle et ce Georges Fromont, dont le bras frémissait sous le sien. Alors, quand le coupé bleu vint prendre les Fromont à la porte du théâtre, pour la première fois elle se mit à songer qu'après tout cette femme lui avait volé sa place, et qu'elle serait dans son droit, en essayant de la reprendre.